présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Emmanuel Macron le promet, un plan en faveur de l'hôpital public sera annoncé mercredi prochain. Des milliers de soignants et notamment des médecins ont manifesté aujourd'hui pour réclamer des moyens budgétaires et humains. Reportage de Tara Schlegel. Une œuvre aussi grande soit-elle n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur. Franck Riester évoque à demi-mot les accusations de viol contre Roman Polanski et annonce de nouvelles mesures en faveur de la parité dans le cinéma. Situation toujours très tendue en Bolivie, malgré la nomination d'un gouvernement et la convocation d'élections. Il y a de violents affrontements entre des partisans d'Evo Morales et les forces de l'ordre. 5 ans après la destruction d'un Boeing de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine, la commission d'enquête met en évidence des contacts entre les rebelles pro-russes, soupçonnés d'avoir abattu l'avion, et Moscou. Explication de Stéphane Sio depuis Kiev. Depuis Épernay, dans la Marne, Emmanuel Macron affirme avoir entendu la colère et l'indignation des soignants. Le chef de l'État assure que le gouvernement travaille avec vigueur pour un plan d'action renforcé et des décisions fortes qui seront annoncées mercredi prochain par Édouard Philippe. Des décisions qui, selon le président, redonneront des marges de manœuvre financières. Des décisions prises sous la pression de la rue. La mobilisation s'est poursuivie aujourd'hui un peu partout en France. Aides-soignants, infirmiers, étudiants et médecins ont dénoncé ensemble le manque de moyens et de reconnaissance, ainsi que des conditions de travail dégradées. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
On voit rarement les médecins en première ligne, mais ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement. Et ceux que vous avez rencontrés dans la manifestation parisienne sont très préoccupés.
Oui, à l'image du professeur Laurent Inès, chef du service au CHU de Besançon.
Nous, en neurochirurgie, par exemple, on a un service où on a 30% d'urgence. Eh bien, on n'est pas capable d'assurer les urgences dans des délais raisonnables. En plus de l'activité programmée, il y a des patients, par exemple, qui vont être programmés à 3 mois pour une chirurgie d'une tumeur cérébrale. Eh bien, les patients qui arrivent en urgence, on est toujours en balance de choisir aussi. Et parfois, on a des patients qui restent une semaine dans un service avec une fracture de la colonne vertébrale et qu'on ne peut pas opérer. Ces patients sont alités et très concrètement, ça veut dire qu'ils ont un risque de phlébite, d'embolie pulmonaire et de décès pour le traitement d'une simple fracture vertébrale. Donc ça, c'est un cas concret.
Voilà, ça c'est un cas concret. Alors à Nantes, au service des urgences, 41 médecins urgentistes sur 72 viennent de débrayer cette semaine. Florian Vivrel était jusque-là le seul à être mobilisé dans son service. Il raconte l'électrochoc qui a décidé ses collègues.
Une garde catastrophique il y a une semaine, avec 120 patients présents aux urgences et des patients très graves en file d'attente. Avec des situations vraiment de mise en danger, récupérées in extremis par les infirmiers d'accueil, signalées aux médecins qui étaient là.
Qu'est-ce qui s'était passé en fait?
Un infarctus en file, une méningite pas identifiée dès l'accueil, un patient qui s'aggrave sur le plan respiratoire en file d'attente. Mais ça a été un coup de tonnerre dans le service. Effectivement, les médecins n'étaient pas mobilisés. Notre collègue qui a terminé sa garde, épuisé moralement et physiquement, a envoyé un message concluant. On ne peut pas continuer notre travail de cette façon. Je n'étais plus en mesure d'assurer la sécurité des patients durant ma garde.
En Seine-Saint-Denis, l'hôpital d'Avicenne aujourd'hui fonctionne comme dans beaucoup d'autres, comme un dimanche. Les hospitalisations qui avaient été programmées ont été reportées. C'est totalement inédit, assure Hugues Cordel, praticien au service des maladies infectieuses, et Yacine Tanjaoui, qui est du service de réanimation.
On n'est pas des révolutionnaires, vraiment on n'a pas l'habitude de manifester ça. Là, on est parti de notre hôpital un petit peu en catastrophe. Mais là, il y avait vraiment une envie de venir, une envie de manifester, une envie de donner ce cri d'alarme.
Moi, je suis un fils de l'hôpital public. L'hôpital public, c'est ma mère, ma deuxième mère. J'y suis né, j'y ai fait mes études, j'étais externe, j'étais interne, j'étais chef de clinique, je suis praticien hospitalier, j'y ai passé toute ma vie. Mais cette deuxième mère, elle devient une mère maltraitante pour les soignants. Et quand les parents deviennent maltraitants, les enfants finissent par partir. Et je ne sais pas très bien ce qu'on va arriver à faire comme hôpital public si on ne prend pas soin des soignants.
Ces deux médecins n'avaient pas manifesté depuis 2007. Ils illustrent bien toute une profession qui se dit au bout du rouleau.
Tara Schlegel, il sera aussi question de l'hôpital public dans le temps du débat à 18h20. Supprimer 299 postes d'ici 2022, c'est ce qu'envisage la direction de Radio France pour répondre à la contrainte budgétaire imposée par l'État. Un plan de départ volontaire, sans contrainte, insiste la direction. Il concernera environ 7% des effectifs de l'entreprise, qui compte 4400 salariés à plein temps. Ce plan de départ s'accompagnera d'une réorganisation avec le recrutement de nouveaux profils pour promouvoir les contenus numériques. Les choses se précisent donc, Maxime Tellier. On connaît maintenant les métiers visés par
à les suppressions de postes.
Oui, la liste a été égrenée par les syndicats ce midi lors d'une assemblée générale à l'ambiance plutôt plombée, hein, avec le personnel dans l'agora de la maison de la radio. La direction veut donc supprimer 236 postes via un plan de départ volontaire. L'écart avec le chiffre que vous donnez, Aurélie, 299 postes, s'obtient en additionnant les postes qui sont déjà vacants, donc plus faciles à supprimer. Dans le détail, la direction veut donc supprimer 17 postes de documentalistes, 25 techniciens supérieurs du son, 16 réalisateurs, 3 journalistes à France Info, 1 à France Culture, tous ceux de FIP. Le cœur de Radio France va aussi perdre un tiers de ses effectifs, passer de 90 à 60. C'est la formation musicale la plus touchée. Sylvie Berthaud est soprano dans le cœur de Radio France, élue CGT aussi. Elle explique que certaines œuvres ne pourront plus être jouées.
La damnation de Faust, le Requiem de Berlioz, le Requiem de Verdi, les symphonies de Mahler, même les Requiem de Brahms, etc., tous ces répertoires qui attirent quand même beaucoup de public, quoi qu'on en dise, et qui font quand même toujours les succès du cœur.
Et certains estiment que c'est la mission même de service public de Radio France qui est attaquée. Mission culturelle, mission d'information qui fait la différence avec les autres contenus des autres médias. Bertrand Durand est technicien supérieur du son, élu CGT au comité central.
Avec ce que propose la direction et le nombre de postes qui a été supprimé depuis déjà 4 ans, on arrivera à moins 10% de l'effectif à Radio France. On ne voit pas comment on va pouvoir poursuivre le travail tel qu'il a été fait jusqu'à maintenant. La qualité en pâtira forcément et surtout les conditions de travail des salariés, la charge de travail qui se reportera sur ceux qui restent.
Mais ce plan est soutenable, répond la direction, qui prévoit quand même, il faut le noter, la création de 76 postes, 50 pour le numérique et 26 pour les besoins de la réorganisation. Plan insoutenable, répondent les syndicats qui critiquent des conditions de départ même pas intéressantes. Tout le monde est perdant, ceux qui restent, ceux qui partent, lance le SNJ, syndicat national des journalistes. Et tout cela alors que Radio France est premier groupe radiophonique français avec un budget maîtrisé. Une grève pourrait avoir lieu le 25 novembre, prochain jour de réunion du comité social et économique qui dure encore à cette heure-ci. Quant à la présidente Sybille Veil, elle a prévu de rencontrer les salariés demain matin pour défendre ses arguments.
Maxime Tellier. Les accusations d'Adèle Haenel contre le réalisateur Christophe Ruggia et celles de la photographe Valentine Monnier contre Roman Polanski. C'est dans un contexte bien particulier que se tenaient les assises de la parité et de la diversité au cinéma à Paris. Dans son discours, le ministre de la Culture, Franck Riester, a longuement évoqué le phénomène du harcèlement sexuel au cinéma. Cécile de Kervès-Doué.
Oui, pour la première fois depuis 10 ans, un ministre de la Culture a donc voulu rappeler que ni l'œuvre ni le talent n'excluent les fautes de l'artiste. Dans un discours centré sur la lutte contre le harcèlement sexuel, Franck Riester a prévenu que dorénavant, toutes les aides publiques au cinéma seraient conditionnées à des actions de lutte contre les violences sexuelles. Surtout, le ministre veut croire que la parité est un outil pour y parvenir.
La parité et l'égalité doivent devenir la norme dans la société tout entière. Mais le cinéma a une responsabilité particulière. Parce que ces images résonnent en nous. Elles façonnent le monde et la perception que nous en avons. Elles peuvent aussi véhiculer, installer des stéréotypes pernicieux.
Dans une profession où les femmes ne représentent qu'un quart des professionnels, le ministère de la Culture développe donc des mesures d'incitation à la parité. Un système de bonus qui offre 15% de financement public en plus pour une production qui respecte la parité dans l'encadrement a concerné cette année un quart des films aidés. Et puis, il y a maintenant cette charte du collectif 50-50 qui oblige la profession à aller chercher, former et embaucher des femmes et des membres de la diversité. Une véritable révolution, considère Ouda Benyamina, la réalisatrice des Divines.
Quand j'ai débuté, moi, il y a 12 ans, je trouvais que le cinéma était blanc, bourgeois et par les hommes, en fait. Pourquoi ça n'a pas changé? Parce que à la tête de toutes les grandes institutions, là où il y a du pouvoir, c'est les hommes. Et qu'à partir du moment où on changera ces postes-là, bah, ça changera la couleur du cinéma, c'est évident. C'est pour ça que c'est important, cette charte. C'est pour changer, justement, tous ces dirigeants.
Cette année, la parité est rendue obligatoire dans les instances et les commissions du CNC. Et pour aller plus loin, le collectif 50-50 met aussi en place un annuaire pour recenser les professionnels discriminés à cause de leur sexe, leur âge ou leur origine. L'idée, c'est d'aider la profession à les embaucher, explique Laurence Lascari. Elle dirige la maison de production de l'autre côté du périph'.
Le succès est à la clé, le public est en demande de cette diversité, le public est en demande de ces nouveaux regards-là. Il y a des talents, il y en a énormément, donc allons les chercher. Puis voilà, faisons en sorte qu'on n'ait plus besoin de chartes pour le comprendre et pour se l'approprier.
En attendant, si les grands syndicats et organismes collectifs du cinéma ont adopté cette charte, d'autres, en revanche, font barrage. Exemple, l'ARP, l'association des réalisateurs dont fait partie Roman Polanski, a brandi la liberté de création contre la promotion de la parité et de la diversité.
Cécile de Kervas-Doué au Centre National du Cinéma. La justice va réexaminer la validité du non-lieu dont Gérald Darmanin a bénéficié en 2018. Le ministre des Comptes Publics avait été accusé de viol par une femme, plainte classée sans suite par le parquet de Paris. La plaignante avait fait appel de cette décision, mais son recours avait été jugé hors délai par la Cour d'appel de Paris. La Cour de cassation estime aujourd'hui que le recours était bien recevable. 6 jours après l'immolation d'un étudiant en difficulté financière à Lyon, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, a commencé à rencontrer les organisations étudiantes. Il a vu la FAGE et l'UNEF aujourd'hui. Il recevra demain les syndicats Unis, FSE et Solidaires. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
La FAGE et l'UNEF réclament un plan d'urgence de refonte des aides sociales pour répondre à la précarité étudiante.
Oui, pour les deux principales organisations étudiantes, le système est à bout de souffle. Il est injuste parce que 73% des étudiants n'ont pas accès aux bourses et pour ceux qui ont accès, elles sont insuffisantes pour vivre. Autre défaut, le système est totalement infantilisant, dénonce l'UNEF, qui réclame la reconnaissance d'un véritable statut étudiant. Mélanie Luce, sa présidente.
Aujourd'hui, être étudiant, c'est un gros vide social en fait, puisque on nous dit légalement, vous êtes autonome. Légalement, on est responsable de nos actes, on est indépendant de nos parents, on peut avoir notre propre foyer fiscal, c'est souvent le cas après 21 ans, mais en réalité, nos aides, elles sont calculées sur le revenu de nos parents. Donc on est toujours considérés comme des enfants, on est infantilisés en fait, et du coup, les aides qui nous sont mises à notre disposition ne sont pas à la hauteur. Comme on est considérés comme des enfants, on ne nous donne pas accès à un médecin de manière prioritaire, de manière gratuite. Comme on est considérés comme des enfants, on considère que, l'accès au logement, ce n'est pas forcément la priorité, parce qu'on pense que les étudiants vivent encore chez leurs parents. Comme on est considéré comme des enfants, on pense que pendant notre insertion professionnelle, c'est nos parents qui paieront pour s'assurer qu'on ne travaille pas chez McDo pendant qu'on cherche un emploi qui correspond à nos qualifications. Donc, toutes ces problématiques, elles sont liées par une seule chose, c'est que l'on ne reconnaît pas l'autonomie des jeunes, et c'est pour ça qu'on demande ce statut-là.
La FAGE et l'UNEF réclament également au gouvernement des réponses concrètes avant demain soir, comme par exemple l'augmentation du fonds d'aide d'urgence, 20% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté, rappelle la FAGE. Si la FAGE menace d'une forte mobilisation des jeunes dans les jours à venir, pour l'UNEF, les âgés dans les universités débuteront la semaine prochaine. L'UNEF qui a déjà appelé à la manifestation du 5 décembre.
Annabelle Grelier. On plonge chaque semaine un peu plus dans la campagne avec le rendez-vous du service politique de la rédaction de France Culture, les jeudis des municipales. Nous étions dans la métropole de Rouen ce matin. Nous poursuivons cette journée par un portrait de maire de la région. Anne Fauquemberg nous emmène à Écrinville, dans le pays de Caux. Claire Guérou-Sachaud, l'actuelle maire de cette petite commune rurale d'un millier d'habitants, se présente pour la troisième fois. Reportage.
Ça avance. Ah oui, ça avance.
D'accord. On aura ça, Antoine.
Et du coup, on a trouvé une pompe assez...
Sixième réunion de chantier pour Claire Guérou-Sachaud. Le nouvel atelier communal sera inauguré dans quelques semaines et c'est la fin d'un parcours de combattante.
Là, en l'occurrence, ce qui a été compliqué, c'est que le premier jour des travaux, on a découvert une ligne de tension qui n'avait pas été signalée, de 20 000 volts. Donc il a fallu dévoyer la ligne. Donc on a perdu 4 ou 5 mois déjà pour le démarrage des travaux. Quand on a voulu démarrer les travaux, l'entreprise qui avait eu le marché pour le gros œuvre a mis la clé sous la porte, fait faillite. Donc il a fallu relancer un appel d'offres. Donc on a reperdu 3 mois. Ce chantier-là a été un peu compliqué à gérer. Oui.
Le bâtiment sera le symbole de cette fin de mandat. Un mandat marqué par d'autres combats, notamment celui de l'école. À la rentrée 2018, une classe aurait dû fermer. Mais la maire n'a pas ménagé ses efforts, se souvient Peggy Gilbert, une maman d'élève.
On est monté jusqu'à la préfecture, on a fait des tas de recours partout. Voilà, et on a eu gain de cause, on a fait école morte. Enfin, vraiment, on a été soutenus de A à Z. Et on a eu gain de cause sur la non-fermeture de cette classe qui fait qu'aujourd'hui nos enfants apprennent dans des conditions tout à fait agréables avec des effectifs tout à fait raisonnables à 25 par classe.
Elle ne lâche rien, Claire Guérou-Sachaud, en témoignent ses adjoints, agriculteurs, dans l'ordre Sylvain Cherfis et René Pommel, aujourd'hui à la retraite.
Je ne sais pas si vous avez vu, elle a un cahier, donc elle énumère tout ce qu'il y a à faire chaque semaine et quand c'est pas fait, elle réécrit et c'est remis la semaine d'après, enfin voilà, c'est très cadré.
On s'arrange bien, tous ensemble, il y a une bonne équipe, donc...
De quoi vous êtes fier dans le précédent mandat ?
La bibliothèque, l'aménagement du bourg, l'atelier communal, donc là, peaufini. Florissement, un peu. Plantation. Et ça, j'y tiens énormément.
La maire, assistante vétérinaire de profession, utilise son crédit d'heure pour exercer son mandat. Elle ne travaille que 15 heures par semaine et son indemnité d'élu, moins de 1500 euros net par mois pour une commune de cette taille, lui sert donc à compenser sa perte de salaire. En dépit des nouvelles normes, du poids de la responsabilité, sa passion est intacte, même si...
On a un problème avec la station d'épuration qui a jamais été aux normes depuis plus de 15 ans. Et le syndicat d'eau avant, qui avait la compétence, n'a pas agi. La communauté de communes, on attend beaucoup. Là, on a l'impression qu'il se passe rien. En attendant, on a une station qui pollue. Et là, j'ai pas la main dessus. Et ça, c'est très frustrant, oui.
Un sujet que la maire d'Écrinville pourra partager la semaine prochaine. Elle sera présente au congrès des maires et des présidents d'intercommunalité à Paris.
Portrait signé Anne Fauquemberg. La candidature de Thierry Breton à la Commission européenne est validée. Contrairement à Sylvie Goulard, l'ancien ministre de l'économie et ex-PDG du groupe Atos a su rassurer les eurodéputés au sujet des risques de conflits d'intérêts entre ses anciennes fonctions et ses nouvelles responsabilités, Angélique Bouin.
Quelques phrases en anglais puis en allemand avant de repasser au français. Thierry Breton rappelle d'abord sa passion viscérale pour l'Europe et ses multiples casquettes professionnelles. « Je suis le regrand-père de deux petits-fils qui vivent à Berlin », ajoute-t-il à son CV. Une opération séduction qui tombe à plat tant l'ex-capitaine d'industrie apparaît tout d'abord tendu. Puis très vite, l'ex-ministre de Jacques Chirac aborde le sujet qui fâche. Ex-PDG d'un groupe qui travaille avec les institutions européennes, comment évitera-t-il tout conflit d'intérêts ?
Sur ce point précis, je n'irai pas par quatre chemins. Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical. Je me comporterai sur ce sujet exactement avec la même rigueur et intransigeance, la même indépendance que lorsque je suis devenu ministre de l'économie et des finances en France en provenance du secteur privé. Je vous le dis haut et fort, je n'aurai qu'une seule boussole, l'intérêt général européen.
Je me récuserai automatiquement sur les sujets financiers en lien avec mon ancienne entreprise, ajoute Thierry Breton. Mais vu le nombre de dossiers concernés, serez-vous un commissaire fictif, lance Manuel Bompard, élu de la France Insoumise. Thierry Breton, bousculé donc, mais qui retrouve tout son aplomb au fil de l'audition. Il a du talent et sur le fond des dossiers, il a assuré, confie plusieurs élus.
Angélique Bouin, à Strasbourg. La tension ne retombe pas en Bolivie après la démission d'Evo Morales accusé de fraude électorale. Désormais, ce sont les partisans de l'ancien président qui descendent dans la rue pour faire entendre leur voix. Ils se plaignent d'être oubliés, voire discriminés par le gouvernement par intérim qui se met en place. On retrouve Alice Campagnol à La Paz.
Les manifestants soutiens d'Evo Morales prennent les militaires et les policiers à partie dans les rues de La Paz. Vous nous massacrez, vous avez oublié d'où vous venez. Voilà ce que criaient ces citoyens boliviens aux forces de l'ordre.
La police tourne le dos aux gens les plus humbles. Elle se retourne contre son propre peuple et accueille dans ses bras ce raciste de Camacho. Ça nous met en colère.
Depuis que l'armée se charge avec la police de la répression des manifestations, on compte 5 morts dans les rangs des partisans de l'ex-président. Auparavant, 3 personnes de l'opposition avaient été tuées dans des affrontements avec ces mêmes soutiens d'Evo Morales. La démission de l'ancien président n'a pas calmé la rue et Carlos Mesa l'accuse d'entre retenir depuis Mexico la colère de ses partisans.
Ce que Morales veut, c'est le chaos. Ce que Morales veut, c'est mentir au monde entier en disant qu'il veut le dialogue, mais il recherche et je dirais même, il organise la violence.
Et si les rassemblements de ces derniers jours à La Paz se veulent pacifiques, des violences ont systématiquement lieu. Gaz lacrymogène du côté de la police et bâton dynamite du côté des manifestants. Le nouveau gouvernement par intérim nommé hier par la conservatrice Jeanine Agnès ne calmera pas les tensions du côté des défenseurs d'Evo Morales. Peu de place, en effet, pour des représentants de la majorité indigène du pays.
Quels étaient les liens entre Moscou et les rebelles pro-russes soupçonnés d'avoir abattu un Boeing de la Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine? L'avion qui effectuait la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpour a été touché par un missile le 17 juillet 2014. Sur les 298 personnes à bord, il n'y a eu aucun survivant. L'équipe internationale en charge de l'enquête vient de faire des révélations. Selon elle, les combattants séparatistes de Donetsk étaient en contact régulier avec de hauts dirigeants du Kremlin. La correspondance de Stéphane Sio à Kiev.
Les nouvelles révélations de l'équipe conjointe d'enquête chargée d'élucider les circonstances du crash du vol MH17
commence à donner une vision plus claire de la chaîne de commande qui a conduit à cette catastrophe. En effet, les procureurs ont publié aujourd'hui des conversations enregistrées entre ceux qui semblent être les principaux protagonistes de l'affaire. D'un côté, Igor Strelkov et Alexandre Borodaï, des agents russes qui dirigeaient l'insurrection séparatiste à Donetsk contre l'armée ukrainienne à l'été 2014. Et au bout du fil, à Moscou, Vladislav Surkov, un des tout proches conseillers de Vladimir Poutine, chargé au Kremlin de piloter les questions ukrainiennes. Dans les conversations, les hommes évoquent des renforts, l'arrivée de soldats russes sur le territoire ukrainien. Désormais, les procureurs néerlandais et internationaux demandent une enquête au sein de l'appareil militaire et administratif russe afin d'établir la chaîne de commande exacte qui a conduit un missile sol-air de l'armée russe à être tiré sur le territoire ukrainien. Ce que révèlent ces conversations téléphoniques, c'est que la chaîne de commandement semble remonter très haut, directement à un bras droit de Vladimir Poutine.
Demain, le temps sera froid et maussade sur l'Hexagone, avec beaucoup d'averses près de la Manche et de l'océan. Des températures minimales hivernales de moins 1 à plus 8 degrés. L'après-midi, il fera entre 3 et 8 dans le nord-est, 5 à 10 ailleurs, 13 à 17 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.